Chapitre 28. Roland, tenant Susanna en équilibre sur sa hanche droite, était planté devant la boîte de métal qui ressemblait à une bouche de métro fermée pour la nuit. Eddie posa le fauteuil à la lisière de la clairière et les rejoignit. En chemin, il sentit la vibration régulière du sol s'accentuer sous ses pieds. La machine qui le produisait se trouvait dans la boîte, ou sous la boîte, comprit-il. Il avait l'impression de l'apercevoir au fond de son crâne et de ses tripes, plutôt qu'avec ses oreilles.
Voici donc un des célèbres 12 portails. Où est-ce qu'il conduit, Roland ? À Disney World ?
Roland secoua la tête. Je n'en sais rien. Peut-être nulle part, ou partout. J'ignore beaucoup de choses sur mon propre monde. Vous vous en êtes sûrement rendu compte. Et certaines des choses que je connaissais ont changé.
Parce que le monde a changé ?
Oui, dit Roland en se tournant vers lui. Ici, ce n'est pas seulement une expression toute faite. Le monde change, et il change de plus en plus vite. Et en même temps, les choses se détériorent, tombent en morceaux. Il donna un coup de pied dans le cadavre mécanique de la boîte ambulante pour illustrer son propos. Eddie revit en esprit le diagramme des portails que Roland avait tracé sur le sol.
Est-ce qu'on est vraiment au bout du monde ? Demanda-t-il presque timidement. Je veux dire, cet endroit ne semble guère différent des autres ?
Il eut un petit rire. S'il y a une falaise donnant sur le vide, je ne la vois nulle part. Roland secoua la tête. Il ne s'agit pas d'un endroit de ce genre. C'est ici que l'un des rayons prend naissance. Du moins, me l'a-t-on enseigné.
Les rayons ? Demanda Susanna. Quels rayons ?
Les grands anciens n'ont pas créé le monde, mais ils l'ont recréé. Certains conteurs affirment que les rayons ont sauvé le monde. D'autres prétendent qu'ils sont les germes de sa destruction. Ce sont les grands anciens qui ont créé les rayons. Ce sont des sortes de lignes. Des lignes qui lient et qui maintenant...
Est-ce que tu veux parler du magnétisme ? Demanda prudemment Susanna.
Le visage de Roland s'éclaira, perdant ses méplats et ses rides pour adopter une expression nouvelle et stupéfiante. Et Eddie sut à quoi ressemblerait le pistolero s'il atteignait un jour sa tour.
Oui. Ce n'est pas seulement une question de magnétisme, mais le magnétisme en fait partie, ainsi que la gravité et l'alignement correct de l'espace, du volume et de la dimension. Les rayons sont les forces qui lient toutes ces choses ensemble.
Et c'est parti pour un cours de physique sinoc, dit Eddie à voix basse.
Susanna l'ignora.
Et la tour sombre ? Est-ce une sorte de générateur ? Une centrale d'énergie pour ces rayons ?
Je ne sais pas.
Mais tu sais qu'on se trouve au point A, dit Eddie. Si on marche assez longtemps, en ligne droite, on arrivera devant un autre portail, le point C, disons, situé à l'autre bout du monde. Mais avant d'y parvenir, on tombera sur le point B, le centre du cercle, la tour sombre.
Le pistolero hocha la tête.
Combien de temps durera le voyage ? Tu le sais, ça ?
Non, mais je sais que le but est très éloigné et que la distance qui nous en sépare grandira un peu plus chaque jour. Eddie s'était penché pour examiner la boîte ambulante. Il se redressa et regarda fixement Roland.
Ce n'est pas possible.
Il parlait comme un adulte essayant d'expliquer à un enfant qu'il n'y a pas de croque-mitaine dans son placard, qu'il ne peut pas y en avoir parce que les croque-mitaines n'existent pas.
« Les mondes ne grandissent pas, Roland. »«
Vraiment ?»« Quand j'étais enfant, Eddie, il existait encore des cartes. Je me souviens de l'une d'elles en particulier. Elle décrivait les grands royaumes de la Terre occidentale. »
Il y figurait mon pays, qui s'appelait Gilead. Il y figurait les baronnies des terres basses, où régnaient l'anarchie et la guerre civile un an après que j'eus gagné mes armes. Il y figurait les collines, les déserts, les montagnes et la mer occidentale. Une longue distance séparait Gilead de la mer occidentale, 400 lieues ou plus, et il m'a fallu plus de 20 ans pour la parcourir.
« C'est impossible !» dit Susanna effarée. « Même si tu avais fait tout ce chemin à pied, il ne t'aurait pas fallu 20 ans. »
Eh, il faut bien s'arrêter de temps en temps pour boire une bière et écrire des cartes postales, » dit Eddie. Mais les deux autres l'ignorèrent. « Je n'ai pas fait tout ce chemin à pied, mais à cheval, » dit Roland. « De temps en temps, j'ai été, comment dirais-je, retardé, mais j'étais sur la route la plupart du temps. Je fuyais John Farson, l'homme menant la révolte qui a renversé le monde où j'ai grandi, l'homme qui voulait planter ma tête sur un pieu et en orner sa cour. Je suppose qu'il avait de bonnes raisons, vu que mes compatriotes et moi-même étions responsables de la mort de bon nombre de ses partisans, et vu que je lui avais volé quelque chose de cher à son cœur. « De quoi s'agissait-il, Roland ?» demanda Eddie. Roland secoua la tête. « Cette histoire sera pour un autre jour, ou peut-être pour jamais. Pour le moment, oubliez-la et réfléchissez. J'ai parcouru plusieurs centaines de lieues, parce que le monde est en train de grandir.
Une telle chose est impossible !» insista Eddie, qui était toutefois salement secoué.
Il y aurait des tremblements de terre, des inondations, des raz de marée, je ne sais quoi d'autre.
Regarde, dit Roland furieux. Regarde autour de toi. Que vois-tu?
Un monde qui ralentit sa course comme une toupie d'enfant alors même qu'il prend une direction qu'aucun de nous ne comprend.
Regarde les créatures que tu as abattues, Eddie. Regarde-les au nom de ton père.
Il fit 2 pas vers le ruisseau, ramassa le serpent d'acier, l'examina brièvement et le lança à Eddie qui l'attrapa de la main gauche. Le serpent se cassa en deux lorsqu'il le saisit.
Tu vois, elle est épuisée. Toutes les créatures que nous avons trouvées ici étaient épuisées. Si nous n'étions pas venus les tuer, elles auraient quand même péri avant longtemps. Tout comme l'ours.
L'ours était atteint d'une sorte de maladie, intervint Susanna.
Le pistolero hocha la tête. Des parasites qui dévoraient ses organes naturels. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas infecté plus tôt?
Susanna ne trouva rien à lui répondre. Eddie examina le serpent. Contrairement à l'ours, il semblait entièrement artificiel. Une créature façonnée de métal, de circuits, et de mètres ou peut-être de kilomètres de fils ultra minces. Mais il apercevait des taches de rouille, non seulement sur la carapace du morceau qu'il tenait dans ses mains, mais aussi sur ses tripes. Et il vit aussi une tache humide signalant une fuite d'huile ou une infiltration d'eau. Les fils les plus proches commençaient à pourrir, et une substance verte semblable à la moisissure poussait sur les cartes de circuit, grosses comme le pouce. Eddie retourna le serpent. Une plaque d'acier lui indiqua que la créature était l'œuvre de North Central Positronics Limited. Il y figurait un numéro de série, mais pas de nom. Ce truc n'était sans doute pas assez important pour être baptisé, se dit-il. Ce n'était rien qu'un auxiliaire mécanique de frère l'ours, une machine conçue pour le maintenir en état de marche, pour lui injecter des lavements de temps en temps, des lavements ou quelque chose d'encore plus répugnant. Il laissa choir le serpent et s'essuya les mains sur son pantalon. Roland avait ramassé le gadget en forme de tracteur. Il tira sur l'une de ses chenilles. Elle se détacha aussitôt, projetant un nuage de rouille entre ses bottes. Il la jeta au loin. « Tout dans ce monde est en train de s'éteindre ou de tomber en morceaux, » dit-il d'une voix neutre. Et en même temps, les forces qui donnent à ce monde sa cohésion, dans le temps et dans la dimension tout autant que dans l'espace,
deviennent de plus en plus faibles. Nous le savions même quand nous étions enfants, mais nous ignorions à quoi ressemblerait la fin. Comment aurions-nous pu le savoir? Mais je vis à présent le crépuscule du monde, et je ne pense pas que lui seul soit affecté. Le vôtre aussi est affecté. Ainsi peut-être qu'un milliard d'autres mondes. Les rayons se détériorent. Je ne sais s'il s'agit d'une cause ou d'un simple symptôme, mais j'en suis sûr. Venez, approchez-vous. Écoutez.
Alors qu'Eddie se dirigeait vers la boîte métallique zébrée de jaune et de noir, un sinistre souvenir s'empara de lui. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à repenser à une maison victorienne en ruine située dans Dutch Hill, à un peu plus d'un kilomètre du quartier où Henry et lui avaient grandi. Cette maison que les gamins des environs avaient baptisée « le manoir » occupait un terrain envahi par les mauvaises herbes dans Rinehall Street. Presque tous les gosses du quartier avaient un jour ou l'autre entendu des histoires à faire peur sur le manoir. Affaissée sous son toit pentu, la maison semblait fixer les passants à l'ombre de son avant-toit. Les vitres de ses fenêtres avaient disparu, bien sûr. On peut lancer des cailloux dans une vitre sans s'en approcher de trop près. Mais elle avait été épargnée par les tagueurs et n'était devenue ni un lieu de rendez-vous, ni un stand de tir. Le plus étrange, c'était qu'elle fut toujours debout. Personne n'y avait mis le feu pour toucher l'assurance ou pour le simple plaisir de la voir brûler. Les gamins affirmaient qu'elle était hantée, bien sûr. Et un jour, alors qu'Eddie la contemplait en compagnie de Henry, ils avaient accompli ce pèlerinage dans le seul but de voir cet édifice fabuleux, objet de tant de rumeurs, bien que Henry eût raconté à leur mère qu'ils allaient avec des copains acheter des fusées chez Dalberg. Il avait eu l'impression qu'elle était peut-être bel et bien hantée. N'avait-il pas senti une force hostile suinter des fenêtres obscures de ces deux vieilles maisons, des fenêtres qui semblaient lui fixer de leurs regards de fous dangereux? N'avait-il pas eu l'intuition que s'il venait à pénétrer dans cet endroit, la porte se refermerait derrière lui en claquant, et les murs commenceraient à se refermer sur lui, broyant les os des cadavres de souris et s'apprêtant également à broyer les siens? Hanté. Hantise. C'était la même sensation de danger et de mystère qu'il habitait lorsqu'il s'approcha de la boîte métallique. Ses bras et ses jambes se couvrirent de chair de poule. Les poils follets de sa nuque se dressèrent en touffes électrisées. Il sentit le même vent subtil souffler sur lui, bien que le feuillage des arbres environnants fût parfaitement immobile. Mais il se dirigea quand même vers la porte. Car c'était une porte, bien sûr, encore une porte, même si elle était fermée à clé, elle resterait toujours pour quelqu'un comme lui. Ne s'arrêtant que lorsque son oreille fut collée au métal. On aurait dit qu'il commençait tout juste à ressentir les effets d'un cachet d'acide de qualité supérieure, ingurgité une demi-heure plus tôt. D'étranges couleurs parcouraient l'espace noir derrière ses paupières. Il avait l'impression d'entendre des voix, des murmures lointains remontant de longs couloirs pareils à des gosiers de pierre, de salles éclairées par des torches électriques défaillantes. Jadis, ces flambeaux des temps modernes avaient jeté sur les lieux une lueur crue, mais il n'en subsistait plus que des globes de pénombre bleutés. Tout n'était que vide, désolation, mort. La machine continuait à ronronner, mais ce bourdonnement n'occultait-il pas une sorte de bruit de fond, un rythme syncopé, désespéré, pareil à celui d'un cœur au bout du rouleau? N'avait-il pas l'impression que la machine produisant ce bruit, quoique bien plus sophistiqué que les engrenages de l'ours, ne battait plus en mesure avec elle-même?
Tout est silence dans les corridors de la mort, murmura Eddie d'une voix blanche. Tout est oubli dans les corridors de pierre de la mort. Voyez l'escalier montant dans les ténèbres. Voyez les chambres de la ruine. Ce sont les corridors de la mort où les araignées tissent leurs toiles et où les grands circuits se taisent l'un après l'autre.
Roland le tira violemment en arrière et Eddie le regarda de ses yeux vitreux.
Ça suffit, dit Roland.
Je ne sais pas ce qu'on a installé là-dedans, mais ça ne tourne plus très rond.
Pas vrai ? S'entendit demander Eddie.
Sa voix tremblante lui paraissait infiniment lointaine. Il sentait encore le pouvoir émanant de cette boîte,
le pouvoir qui l'appelait. Non, rien ne tourne rond dans mon monde ces temps-ci.
Les gars, si vous avez l'intention de camper ici cette nuit, il faudra vous passer de ma compagnie,
dit Susanna.
Son visage était une tache blanche dans la pénombre qui avait suivi le crépuscule.
Je retourne là-bas. Ce truc me fait un drôle d'effet et je n'aime pas ça.
Nous allons tous camper là-bas, dit Roland. Allons-y.
Excellente idée, dit Eddie. Alors qu'il s'éloignait de la boîte, le bruit de la machine s'estompa peu à peu.
Eddie sentit son emprise se relâcher, bien qu'il continuât de l'appeler à lui, de l'inviter à explorer les corridors sombres, les escaliers dressés, les chambres de la ruine où les araignées tissaient leurs toiles et où les cadrans de contrôle s'assombrissaient l'un après l'autre.